Chapitre 10. Réunion des pères. Le bruit que je laissais en dehors contrastait avec le silence qui régnait dans le vestibule du palais de Luxembourg. Ce silence augmenta dans la galerie sombre qui précède les salons de M. de Sémonville. Ma présence gêna les 25 ou 30 pères qui s'y trouvaient rassemblés. J'empêchais les douces effusions de la peur, la tendre consternation à laquelle on se livrait. Ce fut là que je vis enfin M. de Mortemar. Je lui dis que, d'après le désir du roi, j'étais prêt à m'entendre avec lui. Il me répondit, comme je l'ai déjà rapporté, qu'en revenant il s'était écorché le talon. Il rentra dans le flot de l'assemblée, il nous donna connaissance des ordonnances comme il les avait fait communiquer aux députés par M. de Sucy. M. de Breuil déclara qu'il venait de parcourir Paris, que nous étions sur un volcan, que les bourgeois ne pouvaient plus contenir leurs ouvriers, que si le nom de Charles X était seulement prononcé, on nous couperait la gorge à tous et qu'on démolirait le Luxembourg comme on avait démoli la Bastille. « c'est vrai !» murmuraient d'une voix sourde les prudents en secouant la tête. M. de Caraman, qu'on avait fait duc, apparemment parce qu'il avait été valet de M. de Metternich, soutenait avec chaleur qu'on ne pouvait reconnaître les ordonnances. « Pourquoi donc ? » lui dis-je. « Monsieur, cette froide question glaça sa verve. Arrivent les 5 députés commissaires. M. le général Sébastiani débute par sa phrase accoutumée. « Messieurs, c'est une grosse affaire. » Ensuite, il fait l'éloge de la haute modération de M. le duc de Mortemar. Il parle des dangers de Paris, prononce quelques mots à la louange de son Altesse royale, Mgr le duc d'Orléans, et conclut à l'impossibilité de s'occuper des ordonnances. Moi et M. Hyde de Neuville, nous fûmes les seuls d'un avis contraire. J'obtins la parole. M. le duc de Breuil nous a dit, messieurs, qu'il s'est promené dans les rues et qu'il a vu partout des dispositions hostiles. Je viens aussi de parcourir Paris. 3 000 jeunes gens m'ont rapporté dans la cour de ce palais. Vous avez pu entendre leurs cris. Ont-ils soif de votre sang, ceux qui ont ainsi salué l'un de vos collègues ? Ils ont crié « Vive la charte !» J'ai répondu « Vive le roi !» Ils n'ont témoigné aucune colère. Ils sont venus me déposer sains et saufs au milieu de vous. Sont-ce là des symptômes si menaçants de l'opinion publique ? Je soutiens, moi, que rien n'est perdu, que nous pouvons accepter les ordonnances. La question n'est pas de considérer s'il y a péril ou non, mais de garder les serments que nous avons prêtés à ce roi, dont nous tenons nos dignités, et plusieurs d'entre nous, leur fortune. Sa Majesté, en retirant les ordonnances et en changeant son ministère, a fait tout ce qu'elle a dû. Faisons à notre tour ce que nous devons. Comment ? Dans tout le cours de notre vie, il se présente un seul jour où nous sommes obligés de descendre sur le champ de bataille. Et nous n'accepterions pas le combat ? Donnons à la France l'exemple de l'honneur et de la loyauté. Empêchons-la de tomber dans des combinaisons anarchiques où sa paix, ses intérêts réels et ses libertés iraient se perdre. Le péril s'évanouit quand on ose le regarder. On ne me répondit point. On se hâta de lever la séance. Il y avait une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une peur intrépide. Chacun voulait sauver sa guenille de vie comme si le temps n'allait pas, dès demain, nous arracher nos vieilles peaux dont un juif bien avisé n'aurait pas donné une obole. Chapitre 11. Les Républicains, les Orléanistes, M. Thiers est envoyé à Neuilly. Autre convocation des pères chez le grand référendaire. La lettre m'arrive trop tard. Les 3 partis commençaient à se dessiner et à agir les uns contre les autres. les députés qui voulaient la monarchie par la branche aînée étaient les plus forts légalement. Ils ralliaient à eux tout ce qui tendait à l'ordre. Mais moralement, ils étaient les plus faibles. Ils hésitaient, ils ne se prononçaient pas. Il devenait manifeste, par la tergiversation de la cour, qu'ils tomberaient dans l'usurpation plutôt que de se voir engloutis dans la République. Celle-ci fit afficher un placard qui disait « La France est libre. Elle n'accorde au gouvernement provisoire que le droit de la consulter, en attendant qu'elle ait exprimé sa volonté par de nouvelles élections. Plus de royauté. Le pouvoir exécutif confié à un président temporaire. Concours médias ou immédiats de tous les citoyens à l'élection des députés. Liberté des cultes. » Ce placard résumait les seules choses justes de l'opinion républicaine. Une nouvelle assemblée de députés aurait décidé s'il était bon ou mauvais de céder à ce vœu, plus de royauté. Chacun aurait plaidé sa cause, et l'élection d'un gouvernement quelconque par un congrès national eût eu le caractère de la légalité. Sur une autre affiche républicaine du même jour, 30 juillet, on lisait en grosses lettres « Plus de Bourbons, tout est là, grandeur, repos, prospérité publique, liberté. » Enfin parut une adresse à messieurs les membres de la commission municipale composant un gouvernement provisoire. Elle demandait qu'aucune proclamation ne fût faite pour désigner un chef lorsque la forme même du gouvernement ne pouvait être encore déterminée, que le gouvernement provisoire restât en permanence jusqu'à ce que le vœu de la majorité des Français pût être connu, toute autre mesure étant intempestive et coupable. Cette adresse, émanant des membres d'une commission nommée par un grand nombre de citoyens de divers arrondissements de Paris, était signée par messieurs Chevalier, président, Tréla, Teste, Lepelletier, Guinard, Ingret, Cauchois-le-Maire, etc. Dans cette réunion populaire, on proposait de remettre par acclamation la présidence de la République à M. de Lafayette. On s'appuyait sur les principes que la Chambre des représentants de 1815 avait proclamés en se séparant. Divers imprimeurs refusèrent de publier ces proclamations, disant que défense leur en était faite par M. le duc de Breuil. La République jetait par terre le trône de Charles X. Elle craignait les inhibitions de M. de Breuil, lequel n'avait aucun caractère. Je vous ai dit que, dans la nuit du 29 au 30, M. Laffitte, avec MM. Thiers et Mignet, avait tout préparé pour attirer les yeux du public sur M. le duc d'Orléans. Le 30, parurent des proclamations et des adresses, fruits de ce conciliabule. « Évitons la République, » disait-elle. Venait ensuite l'effet d'armes de Jemmappes et de Valmy, et l'on assurait que M. le duc d'Orléans n'était pas Capet, mais Valois. Et cependant M. Thiers, envoyé par M. Laffitte, chevauchait vers Neuilly avec M. Schaeffer. Son Altesse royale n'y était pas. Grand combat de paroles entre Mademoiselle d'Orléans et M. Thiers. Il fut convenu qu'on écrirait à M. le duc d'Orléans pour le décider à se rallier à la Révolution. M. Thiers écrivit lui-même un mot au prince, et Mme Adélaïde promit de devancer sa famille à Paris. L'orléanisme avait fait des progrès, et dès le soir même de cette journée, il fut question parmi les députés de conférer les pouvoirs de lieutenant général à M. le duc d'Orléans. M. de Sucy, avec les ordonnances de Saint-Cloud, avait été encore moins bien reçu à l'hôtel de ville qu'à la Chambre des députés. Muni d'un récépissé de M. de Lafayette, il vint retrouver M. de Mortemart qui s'écria « Vous m'avez sauvé plus que la vie, vous m'avez sauvé l'honneur !» La commission municipale fit une proclamation dans laquelle elle déclarait que « les crimes de son pouvoir » de Charles X étaient finis et que le peuple aurait un gouvernement qui lui devrait, au peuple, son origine. Phrase ambiguë qu'on pouvait interpréter comme on voulait. messieurs Laffitte et Perrier ne signèrent point cet acte. M. de La Fayette, alarmé un peu tard de l'idée de la royauté orléaniste, envoya M. Odilon Barrot à la Chambre des députés annoncer que le peuple, auteur de la Révolution de juillet, n'entendait pas la terminer par un simple changement de personne, et que le sang versé valait bien quelques libertés. Il fut question d'une proclamation des députés afin d'inviter Son Altesse Royale le Duc d'Orléans à se rendre dans la capitale. Après quelques communications avec l'hôtel de ville, ce projet de proclamation fut anéanti. On n'en tira pas moins au sort une députation de 12 membres pour aller offrir au châtelain de Neuilly cette lieutenance générale qui n'avait pu trouver passage dans une proclamation. Dans la soirée, M. le grand référendaire rassemble chez lui les pairs. Sa lettre, soit négligence ou politique, m'arriva trop tard. Je me hâtais de courir au rendez-vous. On m'ouvrit la grille de l'allée de l'Observatoire. Je traversais le jardin du Luxembourg. Quand j'arrivais au palais, je n'y trouvais plus personne. Je refis le chemin des parterres, les yeux attachés sur la lune. Je regrettais les mers et les montagnes où elles m'étaient apparues, les forêts dans la cime desquelles, se dérobant elle-même en silence, elle avait l'air de me répéter la maxime d'Épicure « Cache ta vie ». Chapitre 12. Saint-Cloud. Scène, Monsieur le Dauphin et le Maréchal de Raguse. J'ai laissé les troupes, le 29 au soir, se retirant sur Saint-Cloud. Les bourgeois de Chaillot et de Passy les attaquèrent, tuèrent un capitaine de carabiniers, deux officiers, et blessèrent une dizaine de soldats. Le Motta, capitaine de la garde, fut frappé d'une balle par un enfant qu'il s'était plu à ménager. Ce capitaine avait donné sa démission au moment de la publication des ordonnances. Mais, voyant qu'on se battait le 27, il rentra dans son corps pour partager les dangers de ses camarades. Jamais, à la gloire de la France, il n'y eut un plus beau combat dans les parties opposées entre la liberté et l'honneur. Les enfants, intrépides parce qu'ils ignorent le danger, ont joué un triste rôle dans les trois journées. À l'abri de leur faiblesse, ils tiraient à bout portant sur les officiers qui se seraient crus déshonorés en les repoussant. Les armes modernes mettent la mort à la disposition de la main la plus débile. Singes laids et étiolés, libertins avant d'avoir le pouvoir de l'être, cruels et pervers, ces petits héros des trois journées se livraient à des assassinats avec tout l'abandon de l'innocence. Donnons-nous garde, par des louanges imprudentes, de faire naître l'émulation du mal. Les enfants de Sparte allaient à la chasse aux ilotes. Monsieur le Dauphin reçut les soldats à la porte du village de Boulogne, dans le bois, puis il rentra à Saint-Cloud. Saint-Cloud était gardé par les quatre compagnies des gardes du corps. Le bataillon des élèves de Saint-Cyr était arrivé. En rivalité et en contraste avec l'école polytechnique, il avait embrassé la cause royale. Les troupes exténuées, qui revenaient d'un combat de trois jours, ne causaient, par leurs blessures et leurs délabrements, que de l'ébahissement aux domestiques titrés, dorés et repus, qui mangeaient à la table du roi. On ne songea point à couper les lignes télégraphiques. Passaient librement sur la route courriers, voyageurs, malle-poste, diligences, avec le drapeau tricolore qui insurgeait les villages en les traversant. Les embauchages par le moyen de l'argent et des femmes commencèrent. Les proclamations de la Commune de Paris étaient colportées çà et là. Le roi et la cour ne se voulaient pas encore persuader qu'ils fussent en péril. Afin de prouver qu'ils méprisaient les gestes de quelques bourgeois mutinés et qu'il n'y avait point de révolution, ils laissaient tout aller. Le doigt de Dieu se voit dans tout cela. À la tombée de la nuit du 30 juillet, à peu près à la même heure où la commission des députés partait pour Neuilly, un aide-major fit annoncer aux troupes que les ordonnances étaient rapportées. Les soldats crièrent « Vive le roi !» et reprirent leur gaieté au bivouac. mais cette annonce de l'aide-major, envoyée par le duc de Raguse, n'avait pas été communiquée au dauphin, qui, grand amateur de discipline, entra en fureur. Le roi dit au maréchal : Le dauphin est mécontent, allez vous expliquer avec lui. Le maréchal ne trouva point le dauphin chez lui et l'attendit dans la salle de billard avec le duc de Guiche et le duc de Ventadour, aides de camp du prince. Le dauphin entra. À l'aspect du maréchal, il rougit jusqu'aux yeux, traverse son antichambre avec ses grands pas si singuliers, arrive à son salon et dit au maréchal : Entrez. La porte se referme, un grand bruit se fait entendre. L'élévation des voix s'accroît, le duc de Ventadour inquiet ouvre la porte, le maréchal sort, poursuivi par le dauphin qu'il appelle double traître. « Rendez votre épée, rendez votre épée !» Et se jetant sur lui, il lui arrache son épée. L'aide de camp du maréchal, M. de la Rue, se veut précipiter entre lui et le dauphin. Il est retenu par M. de Montgascon. Le prince s'efforce de briser l'épée du maréchal et se coupe les mains. Il crie « À moi, garde du corps, qu'on le saisisse !» Les gardes du corps accoururent. Sans un mouvement de tête du maréchal, leur baïonnette l'aurait atteint au visage. Le duc de Raguse est conduit aux arrêts dans son appartement. Le roi arrangea tant bien que mal cette affaire, d'autant plus déplorable que les acteurs n'inspiraient pas un grand intérêt. Lorsque le fils du Balafré, Oxis Saint-Paul, maréchal de la Ligue, ont reconnu dans ce coup d'épée la fierté et le sang des Guises. Mais quand M. le Dauphin, plus puissant seigneur qu'un prince de Lorraine, aurait pourfendu le maréchal Marmont, qu'est-ce que cela eût fait? Si le maréchal eût tué M. le Dauphin, c'eût été seulement un peu plus singulier. On verrait passer dans la rue César, descendant de Vénus et Brutus, arrière-neveu de Junius, qu'on ne les regarderait pas. Rien n'est grand aujourd'hui, parce que rien n'est haut. Voilà comme se dépensait à Saint-Cloud la dernière heure de la monarchie. Cette pâle monarchie, défigurée et sanglante, ressemblait au portrait que nous fait d'Urfé d'un grand personnage expirant. Il avait les yeux hâves et enfoncés, la mâchoire inférieure, couverte seulement d'un peu de peau, paraissait s'être retirée. La barbe hérissée, le teint jaune, les regards lents, les souffles abattus, de sa bouche, il ne sortait déjà plus de paroles humaines, mais des oracles. Chapitre 13. Neuilly, Monsieur le Duc d'Orléans, le Rincy, le prince vient à Paris. Monsieur le Duc d'Orléans avait eu sa vie durant pour le trône, ce penchant que toute âme bien née sent pour le pouvoir. Ce penchant se modifie selon les caractères. Impétueux et aspirant, mou et rampant, imprudent, ouvert, déclaré dans ceci, circonspect, caché, honteux et bas dans cela. L'un pour s'élever peut atteindre à tous les crimes, l'autre pour monter peut descendre à toutes les bassesses. Monsieur le duc d'Orléans appartenait à cette dernière classe d'ambitieux. Suivez ce prince dans sa vie. Il ne dit et ne fait jamais rien de complet et laisse toujours une porte ouverte à l'évasion. Pendant la Restauration, il flatte la cour et encourage l'opinion libérale. Neuilly est le rendez-vous des mécontentements et des mécontents. On soupire, on se serre la main en levant les yeux au ciel, mais on ne prononce pas une parole assez significative pour être reporté en haut lieu. Un membre de l'opposition meurt-il? On envoie un carrosse au convoi, mais ce carrosse est vide. La livrée est admise à toutes les portes et à toutes les fosses. Si, au temps de mes disgrâces de cour, je me trouve aux Tuileries sur le chemin de M. le duc d'Orléans, il passe en ayant soin de saluer à droite, de manière que moi, étant à gauche, il me tourne l'épaule. Cela sera remarqué et fera bien. Monsieur le duc d'Orléans connut-il d'avance les ordonnances de juillet? en fut-il instruit par une personne qui tenait le secret de M. Ouvrard. Qu'en pensa-t-il ? Quelles furent ses craintes et ses espérances ? Conçut-il un plan ? Poussa-t-il M. Laffitte à faire ce qu'il fit ? Ou laissa-t-il faire M. Laffitte ? D'après le caractère de Louis-Philippe, on doit présumer qu'il ne prit aucune résolution et que sa timidité politique, se renfermant dans sa fausseté, attendit l'événement comme l'araignée attend le moucheron qui se prendra dans sa toile. Il a laissé le moment conspirer. Il n'a conspiré lui-même que par ses désirs, dont il est probable qu'il avait peur. Il y avait deux partis à prendre pour M. le duc d'Orléans. Le premier et le plus honorable était de courir à Saint-Cloud, de s'interposer entre Charles X et le peuple, afin de sauver la couronne de l'un et la liberté de l'autre. Le second consistait à se jeter dans les barricades, le drapeau tricolore au poing, et à se mettre à la tête du mouvement du monde. Philippe avait à choisir entre l'honnête homme et le grand homme. Il a préféré escamoter la couronne du roi et la liberté du peuple. Un filou, pendant le trouble et les malheurs d'un incendie, dérobe subtilement les objets les plus précieux du palais brûlant, sans écouter les cris d'un enfant que la flamme a surpris dans son berceau. La riche proie, une fois saisie, il s'est trouvé force chien à la curée. Alors sont arrivées toutes ces vieilles corruptions des régimes précédents, ces receleurs d'effets volés, crapauds immondes, à demi écrasés, sur lesquels on a 100 fois marché, et qui vivent, tout aplatis qu'ils sont. Ce sont là pourtant les hommes que l'on vante et dont on exalte l'habileté. Milton pensait autrement lorsqu'il écrivait ce passage d'une lettre sublime. Si Dieu versa jamais un amour ferme de la beauté morale dans le sein d'un homme, il l'a versé dans le mien. Quelque part que je rencontre un homme méprisant la fausse estime du vulgaire, osant aspirer, par ses sentiments, son langage et sa conduite, à ce que la haute sagesse des âges nous a enseigné de plus excellent, je m'unis à cet homme par une sorte de nécessaire attachement. Il n'y a point de puissance dans le ciel ou sur la terre qui puisse m'empêcher de contempler avec respect et tendresse ceux qui ont atteint le sommet de la dignité et de la vertu. La cour aveugle de Charles X ne sut jamais où elle en était et à qui elle avait affaire. On pouvait mander M. le duc d'Orléans à Saint-Cloud, et il est probable que dans le premier moment, il eût obéi. On pouvait le faire enlever à Neuilly, le jour même des ordonnances. On ne prit ni l'un ni l'autre parti. Sur des renseignements que lui porta Madame de Bondy à Neuilly, dans la nuit du mardi 27, Louis-Philippe se leva à 3 heures du matin et se retira en un lieu connu de sa seule famille. Il avait la double crainte d'être atteint par l'insurrection de Paris ou arrêté par un capitaine des gardes. Il alla donc écouter dans la solitude du Rincy les coups de canon lointains de la bataille du Louvre, comme j'écoutais sous un arbre ceux de la bataille de Waterloo. Les sentiments qui sans doute agitaient le prince ne devaient guère ressembler à ceux qui m'oppressaient dans les campagnes de Gand. Je vous ai dit que dans la matinée du 30 juillet, M. Thiers ne trouva point le duc d'Orléans à Neuilly, mais Madame la duchesse d'Orléans envoya chercher son Altesse royale. M. le comte Anatole de Montesquiou fut chargé du message. Arrivé au Rincy, M. de Montesquiou eut toutes les peines du monde à déterminer Louis-Philippe à revenir à Neuilly pour y attendre la députation de la Chambre des députés. Enfin, persuadé par le chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans, Louis-Philippe monta en voiture. M. de Montesquiou partit en avant. Il alla d'abord assez vite, mais quand il regarda en arrière, il vit la calèche de son Altesse royale s'arrêter et rebrousser chemin vers le Rincy. M. de Montesquiou revient en hâte, implore la future majesté qui courait se cacher au désert, comme ces illustres chrétiens fuyant jadis la pesante dignité de l'épiscopat. Le serviteur fidèle obtint une dernière et malheureuse victoire. Le soir du 30, la députation des 12 membres de la Chambre des députés, qui devait offrir la lieutenance générale du royaume au prince, lui envoya un message à Neuilly. Louis-Philippe reçut ce message à la grille du parc, le lut au flambeau et se mit à l'instant en route pour Paris, accompagné de messieurs de Berthois, Aymès et Oudard. Il portait à sa boutonnière une cocarde tricolore. Il allait enlever une vieille couronne au garde-meuble. Chapitre 14. Une députation de la Chambre élective offre à M. le duc d'Orléans la lieutenance générale du royaume. Il accepte, effort des Républicains. À son arrivée au palais royal, M. le duc d'Orléans envoya complimenter M. de Lafayette. La députation des 12 députés se présenta au palais royal. Elle demanda au prince s'il acceptait la lieutenance générale du royaume. Réponse embarrassée. « Je suis venu au milieu de vous partager vos dangers. J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je consulte diverses personnes. Les dispositions de Saint-Cloud ne sont point hostiles. La présence du roi m'impose des devoirs. » Ainsi répondit Louis-Philippe. On lui fit rentrer ses paroles dans le corps comme il s'y attendait. Après s'être retiré une demi-heure, il reparut portant une proclamation en vertu de laquelle il acceptait les fonctions de lieutenant général du royaume. Proclamation finissant par cette déclaration, la charte sera désormais une vérité. Portée à la chambre élective, la proclamation fut reçue avec cet enthousiasme révolutionnaire âgé de 50 ans. On y répondit par une autre proclamation de la rédaction de M. Guizot. Les députés retournèrent au palais royal. Le prince s'attendrit, accepta de nouveau, et ne put s'empêcher de gémir sous les déplorables circonstances qui le forçaient d'être lieutenant général du royaume. La République, étourdie des coups qui lui étaient portés, cherchait à se défendre, mais son véritable chef, le général Lafayette, l'avait presque abandonné. Il se plaisait dans ce concert d'adoration qui lui arrivait de tous côtés. Il humait le parfum des révolutions. Il s'enchantait de l'idée qu'il était l'arbitre de la France, qu'il pouvait à son gré, en frappant du pied, faire sortir de terre une république ou une monarchie. Il aimait à se bercer dans cette incertitude où se plaisent les esprits qui craignent les conclusions, parce qu'un instinct les avertit qu'ils ne sont plus rien quand les faits sont accomplis. Les autres chefs républicains s'étaient perdus d'avance par divers ouvrages. L'éloge de la terreur, en rappelant aux Français 1793, les avait fait reculer. Le rétablissement de la garde nationale tuait en même temps, dans les combattants de juillet, le principe ou la puissance de l'insurrection. M. de Lafayette ne s'aperçut pas qu'en rêvassant la République, il avait armé contre elle 3 millions de gendarmes. Quoi qu'il en soit, honteux d'être sitôt pris pour dupe, les jeunes gens essayèrent quelque résistance. Ils répliquèrent par des proclamations et des affiches aux proclamations et aux affiches du duc d'Orléans. On lui disait que si les députés s'étaient abaissés à le supplier d'accepter la lieutenance générale du royaume, la Chambre des députés, nommée sous une loi aristocratique, n'avait pas le droit de manifester la volonté populaire. On prouvait à Louis-Philippe qu'il était fils de Louis-Philippe Joseph, que Louis-Philippe Joseph était fils de Louis-Philippe, que Louis-Philippe était fils de Louis, lequel était fils de Philippe II, régent, que Philippe II était fils de Philippe Ier, lequel était frère de Louis XIV. Donc, Louis-Philippe d'Orléans était Bourbon et Capet, non Valois. M. Lafitte n'en continuait pas moins à le regarder comme étant de la race de Charles IX et de Henri III, et disait « Thiers, c'est cela ». Plus tard, la réunion Lointier s'écria que la nation était en armes pour soutenir ses droits par la force. Le comité central du 12e arrondissement déclara que le peuple n'avait point été consulté sur le mode de sa constitution, que la Chambre des députés et la Chambre des pairs, tenant leur pouvoir de Charles X, était tombée avec lui, qu'elle ne pouvait en conséquence représenter la nation, que le 12e arrondissement ne reconnaissait point la lieutenance générale, que le gouvernement provisoire devait rester en permanence sous la présidence de Lafayette, jusqu'à ce qu'une constitution eût été délibérée et arrêtée, comme base fondamentale du gouvernement. Le 30 au matin, il était question de proclamer la République. Quelques hommes déterminés menaçaient de poignarder la commission municipale si elle ne conservait pas le pouvoir. Ne s'en prenait-on pas aussi à la Chambre des Pairs ? On était furieux de son audace. L'audace de la Chambre des Pairs. Certes, c'était là le dernier outrage et la dernière injustice qu'elle eût dû s'attendre à éprouver de l'opinion. Il y eut un projet. 20 jeunes gens des plus ardents devaient s'embusquer dans une petite rue donnant sur le quai de la Ferraille et faire feu sur Louis-Philippe lorsqu'il se rendrait du Palais-Royal à la Maison de Ville. On les arrêta en leur disant « Vous tuerez en même temps Lafitte, Pajol et Benjamin Constant. » Enfin, on voulait enlever le duc d'Orléans et l'embarquer à Cherbourg. Étrange rencontre, si Charles X et Philippe se fussent retrouvés dans le même port, sur le même vaisseau, l'un expédié à la rive étrangère par les bourgeois, l'autre par les républicains. Chapitre 15. Monsieur le duc d'Orléans va à l'hôtel de ville. Le duc d'Orléans, ayant pris le parti d'aller faire confirmer son titre par les tribuns de l'hôtel de ville, descendit dans la cour du Palais-Royal, entouré de 89 députés en casquette, en chapeau rond, en habit, en redingote. Le candidat royal, monté sur un cheval blanc, il est suivi de Benjamin Constant, dans une chaise à porteur, ballottée par deux savoyards. Messieurs Méchin et Viennet, couverts de sueur et de poussière, marchent entre le cheval blanc du monarque futur et la brouette du député Gouteux, se querellant avec les deux crocheteurs pour garder les distances voulues. Un tambour, à moitié ivre, battait la caisse à la tête du cortège. 4 huissiers servaient de licteurs. Les députés les plus zélés meuglaient. « Vive le duc d'Orléans !» Autour du palais royal, ces cris eurent quelques succès. Mais, à mesure qu'on avançait vers l'hôtel de ville, les spectateurs devenaient moqueurs ou silencieux. Philippe se démenait sur son cheval de triomphe et ne cessait de se mettre sous le bouclier de M. Lafitte, en recevant de lui, chemin faisant, quelques paroles protectrices. Il souriait au général Gérard, faisait des signes d'intelligence à M. Viennet et à M. Méchin, mendiait la couronne en quêtant le peuple, avec son chapeau orné d'une aune de ruban tricolore, tendant la main à quiconque voulait en passant aumôner cette main. La monarchie ambulante arrive sur la place de Grève, où elle est saluée des cris « Vive la République !» Quand la matière électorale royale pénétra dans l'intérieur de l'hôtel de ville, des murmures plus menaçants accueillirent le postulant. Quelques serviteurs zélés, qui criaient son nom, reçurent des gourmades. Il entre dans la salle du trône, là se pressaient les blessés et les combattants des trois journées. Une exclamation générale « Plus de Bourbons, vive Lafayette !» ébranla les voûtes de la salle. Le prince en parut troublé. M. Viennet lut à haute voix pour M. Lafitte la déclaration des députés. Elle fut écoutée dans un profond silence. Le duc d'Orléans prononça quelques mots d'adhésion. Alors M. Dubourg dit rudement à Philippe « Vous venez de prendre de grands engagements. S'il vous arrivait jamais d'y manquer, nous sommes gens à vous les rappeler. » Et le roi futur de répondre, tout ému, « Monsieur, je suis honnête homme. » M. de Lafayette, voyant l'incertitude croissante de l'assemblée, se mit tout à coup en tête d'abdiquer la présidence. Il donne au duc d'Orléans un drapeau tricolore, s'avance sur le balcon de l'hôtel de ville et embrasse le prince aux yeux de la foule ébahie, tandis que celui-ci agitait le drapeau national. Le baiser républicain de Lafayette fit un roi. singulier résultat de toute la vie du héros des deux mondes. Et puis, plan, la litière de Benjamin Constant et le cheval blanc de Louis-Philippe rentrèrent, moitié hués, moitié bénis, de la fabrique politique de la grève au palais marchand. Guillemet. Ce jour-là même, dit encore M. Louis Blanc, 31 juillet, et non loin de l'hôtel de ville, un bateau placé au bas de la morgue et surmonté d'un pavillon noir recevait des cadavres qu'on descendait sur des civières. On rangeait ces cadavres par piles en les couvrant de paille. Et, rassemblés le long des parapets de la Seine, la foule regardait en silence. Fin des guillemets. À propos des états de la Ligue et de la confection d'un roi, Palma Quayet s'écrit Guillemets. Je vous prie de vous représenter quelle réponse eût pu faire ce petit bonhomme, maître Mathieu Delaunay et M. Boucher, curé de Saint-Benoît, et quelques autres de cette étoffe, à qui leur eût dit qu'ils dussent être employés pour installer un roi en France à leur fantaisie. Les vrais Français ont toujours eu en mépris cette forme d'élire les rois, qui les rend maîtres et valets tout ensemble. Chapitre XVI. Les Républicains au Palais Royal. Philippe n'était pas au bout de ses épreuves. Il avait encore bien des mains à serrer, bien des accolades à recevoir. Il lui fallait encore envoyer bien des baisers, saluer bien bas les passants, venir bien des fois, aux caprices de la foule, chanter la Marseillaise sur le balcon des Tuileries. Un certain nombre de républicains s'étaient réunis le matin du 31 au bureau du National. Lorsqu'ils surent qu'on avait nommé le duc d'Orléans lieutenant général du royaume, ils voulurent connaître les opinions de l'homme destiné à devenir leur roi, malgré eux. Ils furent conduits au palais royal par M. Thiers. C'étaient M. Bastide, Thomas, Joubert, Cavaignac, Marchais, De Gousset, Guinard. Le prince dit d'abord de fort belles choses sur la liberté. « Vous n'êtes pas encore roi, répliqua Bastide. Écoutez la vérité. Bientôt vous ne manquerez pas de flatteurs. Votre père, ajouta Cavaignac, est régicide comme le mien. Cela vous sépare un peu des autres. » Congratulations mutuelles sur le régicide, néanmoins avec cette remarque judicieuse de Philippe, qu'il y a des choses dont il faut garder le souvenir pour ne pas les imiter. Des républicains qui n'étaient pas de la réunion du National entrèrent. M. Trélat dit à Philippe « Le peuple est le maître. Vos fonctions sont provisoires. Il faut que le peuple exprime sa volonté. Le consulterez-vous, oui ou non ?» M. Thiers, frappant sur l'épaule de M. Thomas et interrompant ses discours dangereux, « Monseigneur, n'est-ce pas que voilà un beau colonel ?»« C'est vrai, » répond Louis-Philippe. « Qu'est-ce qu'il dit donc ? » s'écrie-t-on. « Nous prend-il pour un troupeau qui vient se vendre ?» Et l'on entend de toutes parts ces mots contradictoires et confus. « C'est la tour de Babel, et l'on appelle cela un roi citoyen, la République. Gouvernez donc avec des républicains !» Et M. Thiers de s'écrier, « J'ai fait là une belle ambassade !» Puis M. de Lafayette descendit au palais royal. Le citoyen faillit d'être étouffé sous les embrassements de son roi. Toute la maison était pâmée. Les vestes étaient au poste d'honneur, les casquettes dans les salons, les blouses à table avec les princes et les princesses. Dans le conseil, des chaises, point de fauteuil. La parole à qui la voulait. Louis-Philippe, assis entre M. de Lafayette et M. Lafitte, les bras passés sur l'épaule de l'un et de l'autre, s'épanouissait d'égalité et de bonheur. J'aurais voulu mettre plus de gravité dans la description de ces scènes qui ont produit une grande révolution, ou, pour parler plus correctement, de ces scènes par lesquelles sera hâtée la transformation du monde. Mais je les ai vues. Des députés qui en étaient les acteurs ne pouvait s'empêcher d'une certaine confusion en me racontant de quelle manière le 31 juillet ils étaient allés forger un roi. On faisait à Henri IV, non catholique, des objections qui ne le ravalaient pas et qui se mesuraient à la hauteur même du trône. On lui remontrait que Saint-Louis n'avait pas été canonisé à Genève, mais à Rome, que si le roi n'était catholique, il ne tiendrait pas le premier rang des rois en la chrétienté, qu'il n'était pas beau que le roi priât d'une sorte et son peuple d'une autre, que le roi ne pourrait être sacré à Reims et qu'il ne pourrait être enterré à Saint-Denis s'il n'était catholique. Qu'objectait-on à Philippe avant de le faire passer au dernier tour du scrutin? On lui objectait qu'il n'était pas assez patriote. Aujourd'hui que la Révolution est consommée, on se regarde comme offensé lorsqu'on ose rappeler ce qui se passa au point de départ. On craint de diminuer la solidité de la position qu'on a prise. Et quiconque ne trouve pas dans l'origine du fait commençant la gravité du fait accompli est un détracteur. Lorsqu'une colombe descendait pour apporter à Clovis l'huile sainte, lorsque les rois chevelus étaient élevés sur un bouclier, lorsque Saint-Louis tremblait par sa vertu prématurée en prononçant à son sacre le serment de n'employer son autorité que pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple, lorsque Henri IV, après son entrée à Paris, alla se prosterner à Notre-Dame, que l'on vit ou que l'on crut voir, à sa droite, un bel enfant qui le défendait et que l'on prit pour son ange gardien. Je conçois que le diadème était sacré. L'oriflamme reposait dans les tabernacles du ciel. Mais depuis que sur une place publique, un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière le dos, a abaissé sa tête sous le glaive au son du tambour, depuis qu'un autre souverain, environné de la plèbe, est allé mendier des votes pour son élection, au bruit du même tambour, sur une autre place publique, qui conserve la moindre illusion sur la couronne? Qui croit que cette royauté meurtrie et souillée puisse encore imposer au monde? Quel homme, sentant un peu son cœur battre, voudrait avaler le pouvoir dans ce calice de honte et de dégoût que Philippe a vidé d'un seul trait sans vomir? La monarchie européenne aurait pu continuer sa vie si l'on eût conservé en France la monarchie mère, fille d'un saint et d'un grand homme, mais on en a dispersé les semences fécondes. Rien ne renaîtra. Thank you.